Bienvenue dans Je suis prof de FLE, un podcast dédié aux profs de français en tant que langue étrangère et langue seconde, et aussi aux futurs profs de FLE. Moi, c'est Audrey Rousmalpa, enseignante et chercheure en didactique des langues à l'Université de Groningen aux Pays-Bas. Dans chaque épisode, je discute avec un expert de ce que la recherche nous apprend sur un thème choisi et de comment on peut mettre tout ça en pratique. Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 et dans cet épisode, on va parler FLE avec professeur Jean-Marc Deval. Et je suis ravie de discuter de ce sujet avec Jean-Marc, surtout que j'ai adoré votre réaction quand je vous ai invité pour ce podcast. J'ai envoyé un mail et dans la foulée, j'ai eu une réponse super enthousiaste. Oui, super, voici des articles intéressants, on le fait. Donc, génial, merci pour votre réaction. Et puis, on y est aujourd'hui, on va enregistrer l'épisode. Pour les auditeurs, pour qu'ils se rendent compte un peu de la chance qu'on a de vous entendre, Jean-Marc, vous êtes professeur en linguistique appliquée à Birkbeck, à l'Université de Londres. Et cette année, vous avez reçu le Distinguished Scholar Award de l'Association européenne de linguistique appliquée, qui a récompensé votre carrière, mais aussi votre rôle de mentor pour les jeunes chercheurs. Et j'étais là, j'étais dans la salle, donc j'ai écouté aussi votre discours d'acceptation du prix. Et votre engagement auprès des jeunes chercheurs était d'ailleurs au cœur de votre discours d'acceptation, puisque vous avez raconté cette anecdote géniale que pour la conférence pour laquelle on vous a donné ce prix, on n'avait sélectionné aucun résumé et de vos recherches et vous n'avez donc pas pu présenter vos recherches cette semaine-là. Et pour vous, c'était un signe que quand on commence sa carrière, il ne faut jamais se décourager par le rejet. Et j'ai trouvé que c'était un super message. Donc, votre affinité pour les langues, le pouvoir du langage, puis surtout, dernièrement, enfin, les émotions liées à l'apprentissage des langues a été cultivée dès votre enfance. Vous êtes belge et vous avez grandi en tant que francophone dans une région néerlandophone. Et c'est à cette époque-là que vous avez compris que le langage pouvait être le signe d'appartenance ou de rejet et que vous avez choisi la flexibilité linguistique. Vous êtes vous-même plurilingue et comme un caméléon, vous utilisez le français ou le néerlandais, puis plus tard l'anglais, pour vous fondre dans le groupe ou au contraire, pour provoquer les idées reçues des gens. Donc vos sujets d'étude sont les émotions, le plaisir d'apprendre, l'anxiété et aussi le FLE. Jean-Marc, comment choisissez-vous vos sujets d'étude?
Ah ben, je dirais que mes sujets sont typiquement liés aux choses que j'ai observées quand j'apprenais moi-même des langues étrangères ou des choses que j'ai observées lorsque j'enseignais le français comme langue étrangère. Et j'ai toujours été curieux de comprendre, en fait, pourquoi il y a tellement de variations entre individus. C'est-à-dire que les mêmes étudiants qui ont eu exactement le même input en classe, que certains font des progrès énormes et d'autres en font beaucoup moins, que certains ont très peur alors que d'autres n'ont pas trop peur. Et j'ai toujours été intéressé en fait par cette variation entre individus. Et puis finalement, il y a aussi un intérêt plus pédagogique, c'est-à-dire de si on peut comprendre les différences entre les apprenants, est-ce que on peut devenir plus efficace comme prof de langue? Donc c'est pas de la recherche abstraite, c'est en fait de la recherche empirique avec un but ultérieurement qui est pédagogique.
Oui, et c'est vrai que être prof, c'est une histoire de famille, puisque votre père était prof de français, et vous l'avez été aussi. Et c'était du français FLE que vous donniez, ou c'était français littérature, culture? Qu'est-ce que vous donniez comme genre de cours?
Moi-même, en effet, j'ai été l'élève de mon père.
Ah, c'est vrai?
À l'Athénée Royale, à Bruges. Il était excellent prof, je l'admirais énormément. Il osait faire des choses peu conventionnelles en classe, et je crois que je l'ai suivi un peu là. Je me souviens qu'on a écouté Plastic Bertrand, Sa plane pour moi, à plein volume. Le collègue à côté est venu se plaindre que ça faisait trop de bruit. Et puis, on trouvait ça tout à fait formidable. Oui, moi, j'étais prof de français à l'Institut de langue, à la vraie Université de Bruxelles. Mes étudiants étaient typiquement des Flamands qui avaient le français comme deuxième ou troisième langue. Et c'était pas des cours de littérature, c'était plutôt axés sur la communication. Donc, j'avais la liberté de faire n'importe quoi. Et je crois que c'est là la liberté que je chéris. C'est aussi la liberté académique de faire des recherches sur n'importe quoi qui vous intéresse.
Oui, donc vous aussi, vous cherchiez à motiver en fait vos étudiants en trouvant des thèmes, des activités qui soient proches de leurs intérêts. J'ai un de mes collègues ici à Groningen qui dit toujours que faire de l'enseignement, c'est en fait ce qu'il appelle le Pretterdwingen, donc pousser, faire pression, mais de façon sympathique sur les élèves.
Et puis finalement aussi de se rendre compte que ce qui vous intéresse, vous, est en fait secondaire, que si le but est la communication, il faut communiquer de choses qui intéressent les apprenants, et ça peut en fait ne pas vous intéresser, mais là vous êtes l'acteur qui fait semblant que c'est follement intéressant et que vous êtes vraiment curieux de savoir ce que les apprenants pensent de quelque chose ou de ce qu'ils ont à dire. Je me souviens d'épisodes où je donnais des cours de conversation à Anvers avant d'arriver en Angleterre. Et puis, je voulais parler de politique et du climat et de toutes sortes de grands sujets qui n'intéressaient absolument pas mes étudiants. Et puis, je me suis rendu compte que la chose qui les intéressait, c'était de parler des parties qui avaient eu la semaine précédente, où un tel ou un tel avait flirté avec un tel ou un tel, qu'ils avaient bu autant de bière et qu'ils avaient été terriblement sous. Alors je devais poser comme question, alors est-ce qu'il a vomi? Combien exactement il avait bu? Et puis la conversation était vive. Et en fait, je me rendais compte que c'était ça qu'il fallait, qu'ils parlent avec passion sur les choses qui les intéressaient, eux, et que ce que moi j'en pensais, en fait, était totalement secondaire. Il fallait qu'ils communiquent. Et puis, c'est comme ça, en fait, que je me rendais compte. Et puis là aussi, ça m'a inspiré de faire des recherches sur le concept de « emotional labor », c'est-à-dire l'effort qu'il faut faire comme prof pour se montrer intéressé, pour sourire, pour être, en fait, sympathique en classe, alors qu'on a peut-être, on ne se sent pas nécessairement très, très content ou heureux, etc. Mais on est dans son rôle professionnel. On est un acteur et on doit jouer son rôle.
On crée l'environnement, le climat en fait pédagogique nécessaire à l'apprentissage des langues qui peut créer de l'anxiété chez les uns ou chez les autres. Et donc, on essaie d'avoir un climat beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisant.
Positif.
Oui. Ouais. Et puis ça aide, je pense, quand on est prof de FLE, de vraiment comprendre les trajectoires individuelles, les différences individuelles. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le FLE en particulier?
Et je crois que c'est... Je trouve que le FLE est un concept absolument magnifique parce qu'il s'applique à toutes sortes d'activités qu'on puisse exercer. Ça peut être du sport ou de la musique, ou c'est en fait pour définir, c'est un état psychophysiologique, c'est-à-dire que on se sent, en anglais on dit in the zone, je sais pas si on peut le dire en français dans la zone,
mais on pourrait, je pense qu'on comprendrait,
qu'on fait quelque chose qui est vraiment difficile et ça semble marcher sans effort, sans énorme effort. Et donc, c'est un concept développé par Michal Szélmihály, psychologue positif de Hongrie. En fait, il est décédé assez récemment et il décrivait le flow comme dépendant vraiment de l'équilibre entre le défi et la compétence. C'est-à-dire que ça doit être suffisamment difficile et on doit avoir juste assez de compétences pour pouvoir le faire. Si quelque chose est trop facile, on s'ennuie et on n'arrive pas dans cet état de flow. Si c'est trop difficile, ben on abandonne parce que c'est trop difficile. Et je crois que c'est en fait aussi crucial justement dans la salle de classe que le prof trouve ce point d'équilibre où les apprenants ont à faire quelque chose qui soit suffisamment difficile pour que ce soit motivant et intéressant et quand même pas ni trop facile ni trop difficile. Donc comment ajuster constamment et parfois il faut abandonner ou changer quand on se rend compte que ça marche pas, qu'ils n'atteignent pas cet état de flow, et que justement quand on atteint cet état de flow, c'est magnifique parce que à ce moment-là, les apprenants oublient en fait qu'ils sont dans une salle de classe, ils oublient combien de temps a passé, ils sont totalement dans l'activité, et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé lorsque j'enseignais le français aussi à Birkbeck. Le vendredi soir de 6 à 9, quand tout le monde était fatigué et qu'il fallait faire oublier à tout le monde qu'ils avaient faim, qu'ils avaient travaillé toute la semaine, et donc en fait qu'ils étaient épuisés, il fallait leur faire oublier tout ça. Et alors, c'était magnifique quand ça marchait et qu'on était en fait dans un état de flow en groupe et où donc tout le monde faisait un effort maximal sans se rendre compte de l'effort que ça prenait. Et puis, à 9h-5, quand on disait « Ok, les gars, ça suffit pour aujourd'hui de voir combien tout le monde, tout d'un coup, s'arrêtait, n'était plus en flow. Et puis, on voyait physiologiquement combien tout d'un coup les gens se rendaient compte « Ah, merde, mais je suis fatigué, oh, j'ai faim, quoi, il est déjà 9h, oh, ben, il est temps de rentrer. Oh. » Et puis, et moi aussi, qui avait été tout énergique, là, en sortant de la classe, je sentais aussi que, mon Dieu, ça, je suis épuisé, ça a été dur. Là.
Voilà, physiquement, on est épuisé, mentalement, on est bien sûr dans l'extase.
oui, c'est ça. Et je crois que c'est ça aussi qu'on sent quand on est prof, que quand ça a bien marché, et qu'on sort de la classe et on dit « Tiens, mais là, je suis épuisé, mais qu'est-ce que ça a bien marché ?» En fait, je dirais que c'est ça la satisfaction professionnelle du prof.
Oui, donc le flow, c'est un état de concentration où on perd la notion du temps comme on l'aurait quand on regarde un bon film, en fait. Oui. La dernière fois, je suis allée au cinéma, je suis allée voir le film Sans filtre, je ne sais pas si vous l'avez vu, The Triangle of Sadness, c'est celui qui a gagné donc la Palme d'Or. Oui. Avant d'entrer dans le cinéma, j'ai regardé le film, fait presque 3 heures, je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, c'est vrai que quand quelque chose nous intéresse, on perd cette notion du temps complètement. Donc ça serait un peu ce que le flow veut dire. Et suite aux recherches que vous avez effectuées, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui comptent dans le flow? Donc là, on parle donc d'activités qui soient intéressantes.
Il faut créer le climat psychologique, je dirais, et émotionnel où le flow puisse émerger. Et je dirais qu'en fait, c'est possible avec des étudiants de tout niveau, c'est-à-dire que ça ne doit pas nécessairement être des apprenants avancés. On peut atteindre un état de flow en faisant des choses assez simples. Cependant, ce que j'ai trouvé dans mes recherches avec Peter McIntyre, c'est que dans la classe de langue, les moments de flow sont plutôt rares parmi les débutants. Et ne durent pas très longtemps, alors que quand ils avancent dans leurs compétences, que en fait les épisodes de flow commencent à être plus fréquents et plus intense. Et quand on a comparé donc des descriptions d'état de flow entre débutants et étudiants avancés, on a vu que pour les avancés, ils disaient qu'ils étaient en état de flow pendant trois quarts du temps, alors que pour les débutants, ben, ils étaient plutôt en état de flow pendant un tiers du temps en classe. Donc, on a comparé le flow en fait à une étincelle. Et le but du prof, c'est de faire en sorte que cette étincelle s'installe, puisse devenir un petit feu gentil, et puis peu à peu, ça peut devenir vraiment un feu plus intense. Et c'est crucial parce que justement, comme vous venez de décrire l'expérience, vous avez vu un film magnifique qui a pris qui a duré 3 heures, et cependant, ça semble s'être passé très rapidement. En fait, c'est quelque chose qu'on recherche comme individu. La prochaine fois que vous allez à un film et que vous vous ennuyez après une demi-heure et que vous n'atteignez pas cet état de flow, ben vous risquez de quitter le cinéma parce que vous savez qu'en fait, c'est pas ce que vous cherchiez. Et que donc, en fait, c'est intrinsèquement motivant d'être dans cet état de flow. Et donc, quelqu'un qui a été dans cet état espérera qu'il ou elle retrouvera cet état la prochaine fois.
On est à la recherche comme l'adrénaline, comme la dopamine.
Voilà. Voilà. Et donc, ça peut arriver, par exemple, que le prof habituel qu'on adore et on atteint un état de flow chaque fois qu'on est dans sa classe, mais peut-être que le remplaçant, que ça ne marche pas. On n'atteint pas l'état de flow. Et alors, on reproche au remplaçant de ne pas avoir fait le job que le prof ordinaire fait, ce qui est un peu injuste, peut-être. Mais je suppose que c'est lié aussi à la personnalité du professeur. Et puis, il y a des gens qu'on aime bien tout de suite, et puis d'autres personnes avec qui qu'on aime moins bien, peut-être. Je crois que... Donc, en fait, c'est un défi, parce que même un prof qu'on aime bien, chaque fois, ce prof doit faire un effort pour mériter l'appréciation des apprenants. Et chaque fois, en fait, le prof doit faire un effort énorme pour que tout le monde atteigne cet état de flow. Et des fois, ça marche pas. C'est-à-dire que parfois, pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas de flow. Et ça peut être parfois du sabotage par certains apprenants qui se disputent entre eux ou qui causent... La concentration peut se dissiper tout d'un coup parce qu'il y a du bruit dans le corridor ou parce que quelque chose se passe. Et donc, le prof ne peut pas tout contrôler. Mm. Mais je me souviens, en fait, que comme prof, je me suis le plus fâché intérieurement quand quelqu'un sabotait l'état de flow, en disant ou en faisant quelque chose d'idiot, parce que alors ça prenait typiquement 10 minutes à un quart d'heure pour que on ait oublié l'incident et que on atteigne de nouveau cet état de flow. Et parfois on l'atteignait plus.
C'est assez fragile quand même.
Oui, c'est ça. C'est vraiment fragile. Je trouve que c'est comme le prof qui doit être dirigeant d'orchestre, mm. où l'orchestre joue à perfection. Et en fait, celui qui guide peut disparaître dans l'ombre parce que ça marche tout seul. Mais il doit être dans l'ombre à faire en sorte qu'il n'y aura pas d'interruption et que tout continue comme prévu. Et donc, c'est en fait, je dirais, un peu un rôle de magicien. Aussi, un bon prof, c'est celui qui a de la magie invisible dans la classe, qui fait que tout le monde reste en harmonie, à travailler, à poursuivre un but commun.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que je me compare souvent à Mary Poppins. Le rôle du prof dans la classe, pour moi, c'est un peu Mary Poppins, quoi. Elle ouvre son sac, elle sort quelque chose. Oui. Je me demande, ce qui est intéressant, donc, cette différence entre les débutants, les gens avancés, je me demande, est-ce que aussi, en plus du fait qu'on apprécie le prof au point de vue personnel ou pas, est-ce que quand un prof est capable de trouver ce niveau qui soit pas trop difficile mais pas trop facile non plus, si ça aide pas à avoir ce climat de flow dans la classe, parce que c'est aussi un art de trouver ce moment d'équilibrium comme ça entre ce qui est trop difficile et ce qui est trop facile.
Absolument. Et ce qu'il y a évidemment, c'est que le prof calcule une sorte de moyenne pour toute la classe, mais évidemment, dans la salle de classe, ce qui est juste assez difficile pour l'un sera peut-être un peu trop difficile pour l'autre. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que personne ne soit abandonné et que donc, je crois que pour atteindre ça, il faut développer un sens d'unité et de solidarité dans la classe où il y a un respect mutuel entre les élèves les plus forts et plus faibles et le prof, que tout le monde doit être impliqué, même si pas tout le monde a la même compétence, et qu'on donne l'occasion à tout le monde de contribuer quelque chose. Et même si ce n'est pas grand-chose, que tout le monde contribue quelque chose et que donc tout le monde soit apprécié. Et je me souviens par exemple d'avoir eu des élèves qui bégayaient et qui étaient clairement très anxieux. Et puis, évidemment, dans le groupe, tout le monde sait qu'un tel et un tel bégayent est anxieux. Et puis, ils respectaient quand je donnais l'ordre à tout le monde lors d'une discussion bruyante de se taire un instant parce que je voulais absolument connaître l'opinion de tel ou tel apprenant et que tout le monde savait que cet apprenant-là bégayait, avait besoin d'un peu de temps et que donc en fait on crée un moment réservé pour cet individu-là parce qu'on voulait savoir ce que cet individu-là pensait sur la question qui était discutée. Et alors ça en fait ça créait une très bonne ambiance. Parce que tout le monde se rendait compte, en fait, que le prof avait de l'empathie pour chacun et qu'il créait l'espace nécessaire pour que même les plus faibles puissent dire quelque chose qui était apprécié et puis alors qui pouvait être discuté par le reste de la classe. Et donc, en fait, je sentais là que comme prof, on a le rôle d'arbitre, de dirigeant, parfois même de psychothérapeute, parce que dans la langue étrangère, surtout quand on a des apprenants, j'ai presque toujours eu des apprenants qui étaient adultes, on ose parler de choses dont on ne parlerait peut-être pas avec ses amis ou sa famille, parce qu'on est en fait un groupe assez éphémère et on peut parler de choses profondes. Dans cette langue étrangère, ça a comme moins de résonance émotionnelle.
Les mots ont une autre signification.
Voilà. Et donc, assez souvent, je me suis rendu compte que, oh là là, mon Dieu, ça devenait en fait une thérapie de groupe et que je n'étais pas formé pour ça et qu'il fallait être en fait très prudent, surtout quand on parlait, je ne sais pas, d'orientation sexuelle ou de maladie ou de choses vraiment profondes et très délicates. Mais je dirais que quand on discutait de ça, qu'en fait, tout le monde dans le groupe se rendait compte, en fait, là, c'était nouveau un état de flow, combien c'était profond et combien, en fait, c'était plus qu'un simple cours de langue où on fait des petites choses, on parle de petites choses superficielles. Non, ça pouvait être tout à fait le contraire. Et ça aussi, ce sont des moments dont je me souviens, j'étais assez fier et un peu inquiet, je dirais, comme prof, que ça puisse se passer comme ça.
Oui, et ce qui est bien dans un cours de FLE, c'est on n'est pas obligé de dire la vérité, en fait. Ce qui compte, c'est de parler, de pratiquer, etc. Et puis, on peut s'inventer une vie. Je me souviens, quand j'ai appris le néerlandais dans ma classe, il y avait quelqu'un qui venait du Congo, je crois. Et puis, tout le semestre, il nous a dit donc là-bas, au Congo, il avait sa femme, son fils de 3 ans, Modo, qui s'appelait comme ça. Puis, 6 mois plus tard, je le recroise dans la rue. Je lui dis « Alors, comment ça va, la famille ?» Il me dit « Mais j'en ai pas, j'ai tout inventé. » Il avait peur de rien avoir à dire dans le cours de débutant où il fallait présenter toute sa famille. Du coup, il s'est inventé toute une famille.
Il vous a bien eu, alors.
Il nous a bien eu, oui. Mais quand on vous entend parler sur ces sujets qui touchent en fait la personne, les étudiants qui sont à un moment de leur vie qui est importante, où il se passe toutes ces choses, on se rend compte que la place de l'émotion dans l'apprentissage des langues est vraiment présente, importante. Les émotions jouent un rôle, que ce soit positif ou négatif. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer qu'est-ce que dit la recherche sur ces émotions, le rôle qu'elles jouent dans l'apprentissage d'une langue étrangère?
Alors, c'est l'argument que je développe depuis plusieurs années, parce qu'en effet, dans le monde de la linguistique appliquée, on s'est toujours plutôt intéressé aux facteurs cognitifs. C'est-à-dire, est-ce que les meilleurs apprenants, est-ce que ce sont ceux qui ont plus d'aptitudes, qui ont une meilleure mémoire, qui ont, je sais pas, peut-être un sens musical, et tout ça, et évidemment, on a montré que tous ces facteurs jouent un rôle. On sait aussi quand même que la motivation est importante, et il y a eu beaucoup de recherches aussi sur le rôle de la motivation. Et les gens qui travaillaient sur la motivation trouvaient que l'émotion, ça faisait partie de la motivation. Or, en regardant bien les modèles de motivation, on voit que si on parle d'émotion, ce n'est en fait que l'anxiété qui est une dimension indépendante, et que les émotions positives, on les retrouvait au niveau des items dans les questionnaires, c'est-à-dire « je me suis bien amusé dans le cours d'anglais aujourd'hui », mais il n'y avait pas de dimension indépendante d'émotions positives. Et donc, avec Peter McIntyre, en 2014, on a publié un article où on a proposé le concept de « foreign language enjoyment ». Et le mot « enjoyment » est difficile à traduire en français, et ni en néerlandais d'ailleurs. C'est lié à, de nouveau, le concept de « flow » de Szélymihályi, parce que « enjoyment » n'est possible que quand on fait quelque chose qui vous engage intellectuellement, donc quelque chose de difficile qui exige votre totale concentration. Et c'est donc c'est différent du plaisir qui est plus superficiel et plus éphémère. Enjoyment, en fait, c'est le genre de satisfaction profonde qu'on éprouve quand on se retrouve dans une classe de langue qu'on aime bien. Et puis, ça devient plus ou moins un état. Enfin, il y a cette distinction entre trait and state. En psychologie, states, qui sont des états qui sont liés à des situations spécifiques, traits qui sont des caractéristiques de votre personnalité qui sont beaucoup plus stables. Et puis en fait, quand on éprouve régulièrement cette anxiété en classe, ça devient quelque part entre state et trait. Et la même chose en fait pour enjoyment, à mesure qu'on l'éprouve, ça se stabilise. Et dans une étude qu'on a faite, on a trouvé que la motivation peut fort bien disparaître lors d'un semestre. Or, le niveau de enjoyment et anxiety reste stable. Et en fait, je crois, reste stable à travers tout l'apprentissage. Donc, ce sont les sujets que je suis en train d'étudier là pour le moment avec des études longitudinales, pour voir comment les émotions des apprenants changent. Et puis évidemment, il y a des micro-variations aussi quand on compare, je sais pas, de minute en minute, le niveau d'anxiété ou de enjoyment d'un apprenant qui fait certaines tâches. Ben, on se rend compte qu'il y a de la variation, évidemment, parce que peut-être que un tel n'aime pas les dictées ou n'aime pas des exercices de traduction, mais aime bien de parler devant toute la classe, où il y a certaines personnes qui adorent des listes de vocabulaire et d'autres qui le détestent. Donc il y a pas mal de micro-variations, mais quand on demande la question, est-ce que vous appréciez vos cours de langue, est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans votre classe, tout ça, ce sont des items qui indiquent le niveau de enjoyment ou d'anxiété, et ça, c'est relativement stable.
Et ça a l'air d'être assez interconnecté, puisque vous montrez aussi dans vos recherches qu'il existe un cercle vertueux dans l'apprentissage, voilà. Comme il existe un cercle vicieux qui pourrait nous amener dans des choses beaucoup plus négatives ou qui fonctionneraient moins bien. Là, il y aurait un cercle vertueux, peut-être vous pouvez l'expliquer, qui influence aussi la prestation du coup.
Oui, tout à fait. Donc, je crois que c'est pour ça que les apprenants doivent s'amuser dans la salle de classe, même si c'est difficile, donc s'amuser dans le sens de enjoyment, parce que c'est le premier pas sur l'escalier de ce cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on peut, comme prof, féliciter un élève qui a fait quelque chose de très simple, bien. J'explique parfois aussi que je suis sensei d'une classe de karaté et que donc j'enseigne le karaté depuis 15 ans et il y a parfois des étudiants qui arrivent qui sont là pour la toute première fois, donc ils ne savent absolument rien du karaté. Et puis je leur montre comment faire un point correctement, un bon point. Et puis donc je montre comment plier les doigts ou mettre le pouce. Squeeze a little bit, hein, il faut regarder, et puis il faut tester si c'est un bon point. Alors je circule, et puis alors évidemment il y a quelques débutants, il y en a quelques-uns qui sont déjà un peu plus avancés, et puis je dis aux débutants, mais voilà, ça c'est un bon point, si vous savez faire un bon point, en fait c'est le premier pas, après ça, tout le reste suivra. Et je crois que dans la salle de langue c'est exactement la même chose. La personne qui vient de dire sa première phrase dans une langue étrangère, peu importe qu'il y ait des erreurs grammaticales ou que l'accent n'est pas encore là et tout, il ou elle a dit sa première phrase. Et on a compris ce que cette personne a dit. On dit même. Donc il faut féliciter cette personne, dire mais c'était très bien, j'ai compris ce que vous avez dit. Et alors là, il faut pas commencer à faire la longue liste de tout ce qu'ils ont fait de travers, parce que ça serait démotivant, et on veut qu'ils gagnent un peu confiance. Et puis, il faut pas non plus donner trop de, comment on dit en anglais, praise.
Il faut récompense pas... Oui.
Oui, c'est ça. Il faut
encouragement.
Pas...
Encouragement. Oui. Non, encouragement, si, il faut en donner.
Encouragement, c'est bien, mais il faut pas dire que c'est parfait, quoi.
Voilà.
S'ils savent eux-mêmes que c'est pas parfait, parce qu'il faut être sincère, il faut dire la vérité, comme prof, et on peut dire, bon, bah, écoutez, sur ces 10 trucs, voilà déjà une chose que vous faites bien.
Oui.
C'est une question de perspective, plutôt que de dire, ah ben, 9 choses que vous avez faites de travers.
Pour moi, c'est vraiment le tournant dans l'éducation, en fait, dans l'enseignement. Et vous en parlez avec Peter McIntyre aussi, puisque vous vous ancrez dans ce qu'on appelle la psychologie positive, positive psychology. Et dans l'enseignement, ça change la perspective. C'est beaucoup plus proche de la nouvelle génération qu'on a en face de nous. C'est quoi cette psychologie positive? Qu'est-ce que ça apporte de regarder l'enseignement avec cette loupe-là?
Oui. Mais je reviendrai un instant à Sal Mihai, qui est un des fondateurs de cette psychologie positive. L'idée, c'est que justement, il ne faut pas s'obséder sur ce qui est négatif dans la vie. Et que, évidemment, la psychologie traditionnelle considère les problèmes que les gens ont dans leur vie. Et puis, ce que les psychologues positifs ont dit, c'est... Ne nions pas qu'il y a des problèmes, mais voyons aussi ce qu'il y a de positif. Et donc, plutôt que de se concentrer sur ce qui rate, voyons aussi ce qui réussit. Et je crois en fait que ça doit être la philosophie de chaque prof. peu importe ce que ce prof enseigne, il doit ou elle doit avoir cette perspective d'optimisme que les apprenants apprendront quelque chose.
Ça change complètement oui. Notre perspective sur les erreurs, par exemple.
Ah oui, tout à fait. Ça veut dire que les erreurs sont inévitables, ça fait partie du processus d'apprentissage, mais on ne va pas s'obséder sur les erreurs. Et qu'on ne va pas commencer à juger quelqu'un sur base des erreurs que cette personne commet. C'est totalement idiot. Et voyons plutôt ce que cette personne est capable de faire. Et donc, c'est en fait ça qui doit attirer l'attention du prof. Et puis, ceux qui commencent à se rendre compte que, en fait, ils apprécient le processus d'apprentissage. S'ils apprécient, leur motivation grandira, ils feront un effort supplémentaire, les résultats seront meilleurs, et ça, en soi, renforcera les émotions positives et la motivation, et donc on entre dans ce cercle vertueux, alors qu'on risque d'avoir le contraire s'il y a de l'anxiété, si l'étudiant a eu un mauvais score pour le dernier test, si le prof a dit « Ah, mais tu ne fais pas assez de progrès, tu ne travailles pas assez, tout et tout », eh ben, il risque en fait d'être démotivé, de faire moins son possible, d'éviter de parler dans la salle de classe pour ne pas se faire juger ou corriger méchamment. Et donc là, c'est foutu. Parce qu'il n'y aura plus, de progrès, ce sera sans joie, et sans joie, justement, on n'avance pas. Et puis ça aussi, c'est la philosophie de la psychologie positive, c'est que le but, c'est que les gens s'épanouissent, que les apprenants s'épanouissent et soient heureux. Et donc, si on n'atteint pas ça, alors en fait, comme prof, on rate totalement son objectif. Je dis ça parfois à mes étudiants de doctorat aussi, que mon but, c'est qu'ils deviennent de bons chercheurs heureux et que si la recherche les rend malheureux, en fait, ils doivent abandonner la recherche. Parce que je dis, à quoi ça sert alors de faire tellement d'efforts pendant toutes ces années si vous finirez par vous suicider à la fin du processus. Je préférerais vous voir souriant et heureux sans doctorat que plutôt avec doctorat et terriblement malheureux. Ça ne vaut pas la peine.
Oui. Mais s'il y a un moment dans l'histoire où vraiment on a pu regarder qu'est-ce qui se joue au moment de l'anxiété, de sentiment d'être malheureux, puis du rôle du prof là-dedans, c'est pendant la pandémie et donc tous ces mois passés derrière nos écrans à essayer de motiver un groupe qui, chez eux, ressentait beaucoup d'anxiété, peu de joie. Et je sais que vous avez vraiment regardé les effets de l'enseignement en ligne sur les émotions des élèves et sur leurs prestations.
Et sur leur flow.
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé?
Mais ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que les élèves en ligne éprouvaient moins d'émotions partout. C'est-à-dire qu'ils étaient moins anxieux, mais ils avaient aussi moins de « enjoyment ». Et ils avaient du flow, mais moins que dans la salle de classe. Donc, je crois que c'est en fait parce qu'il y a cette distance émotionnelle quand on est en ligne, que l'expérience simplement d'être assis ensemble dans un endroit et de rire ensemble, stimule le enjoyment, mais ça peut être un peu plus anxieux aussi, on peut se sentir un peu plus anxieux parce que le prof peut apparaître derrière vous et dire « qu'est-ce que vous avez écrit là ?» ou peut vous poser une question en face de vous et tout le monde est autour à écouter comment vous allez réagir, etc. Et donc on n'a pas la possibilité qu'on a quand on est en ligne de diminuer le volume où on voit le visage du prof qui n'est pas plus grand que votre pouce, et que la réaction des élèves, on les entend pas parce que ils sont leurs microphones sont éteints. Donc en fait, c'est on a décrit la situation en ligne comme emotionally disembodied. Ce n'est en fait que deux dimensions plutôt que trois dimensions. Et donc on peut très bien ne pas vraiment se sentir faire partie du groupe.
C'est ça. Une distance quand même qui est là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, un peu d'anxiété, c'est pas si négatif, hein, parce que on peut être derrière son écran moins anxieux parce que bon, on n'a pas sa caméra d'allumée ou on attend beaucoup moins de nous. Un peu plus anxieux en classe, mais finalement, ça nous pousse aussi à faire des activités ou à participer activement et donc à avoir un effet positif sur son apprentissage.
Oui. Oui, c'est ça. Je crois que l'anxiété et le enjoyment montrent simplement qu'on est émotionnellement impliqué dans l'activité. Et si on ressent peu d'anxiété, mais aussi peu de enjoyment, en fait, on est plutôt détaché de ce qui se passe. Et quand on est détaché, forcément, on fera peu de progrès parce qu'on ne fait pas partie. En fait, on s'en fout.
Oui. Est-ce qu'on dit amorphe ou on a un peu sans émotion, quoi?
Oui, oui, c'est ça. On est distancié de ce qui se passe. Et plus il y a de distance, moins il y a de progrès possible.
Oui. C'est un peu trop neutre.
Oui.
Oui. Et dans les recherches que vous avez menées, vous avez regardé plusieurs types d'activités qui ont aidé à atteindre ce niveau de flow. Est-ce que vous avez trouvé des types d'activités, que ce soit en collaboration ou individuelles, qui ont fonctionné particulièrement bien?
En fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est des activités où les apprenants ont un certain degré d'autonomie. Donc, le prof leur demande de faire quelque chose et puis les laisse tranquilles. Et puis qu'ils peuvent, ils ont un moment là pour faire quelque chose à deux ou à trois ou en groupe, sans interférence directe du prof. Et alors là, ça génère le flow. Parce que ils se rendent compte, en fait, que ils sont parfaitement capables de faire du bon travail sans que le prof n'intervienne constamment. Et que aussi, je dirais que c'est probablement un signe de confiance du prof, qu'ils sont capables de faire quelque chose de bien sans l'aide du prof. Et que donc, il y a ce moment de liberté. Et alors, après ça, ils présenteront ce qu'ils ont fait au reste de la classe et au prof. Et alors, ils seront, avec un peu de chance, fiers du résultat. Et le prof sera encourageant. Et puis, les autres seront encourageants aussi, parce que ce qu'on montre, c'est que c'est pas seulement le prof qui joue un rôle crucial dans l'ambiance émotionnelle de la classe, c'est aussi les autres. Si les autres se moquent de vous, si vos camarades se moquent de vous, c'est foutu, quoi que fasse le prof. Donc le prof doit créer une ambiance où tout le monde est solidaire et sympathique, et où il y a une collaboration, et justement, comme je disais plus tôt aussi, un respect mutuel, c'est-à-dire que on est tous là pour le même objectif, et le prof nous aide à atteindre cet objectif. Et donc, on est en sécurité, et on peut prendre des risques, personne se moquera de nous. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle, psychological safety. On est en sécurité psychologique lors du cours.
Oui. Et cette notion d'autonomie, ça me fait penser à ce que vous disiez sur les différences entre les débutants et les avancés que vous avez trouvées. Je ne sais pas comment, avec Peter McIntyre, vous avez interprété cette différence de flow entre le débutant, mais est-ce que ça a à voir aussi avec le fait ben, quand on est débutant, on est moins autonome, on est beaucoup plus dépendant de la présence du prof, par exemple. Comment avez-vous interprété cette différence de moment de flow entre les débutants et les étudiants plus avancés?
Oui, mais je crois que c'est parce que quand on commence à apprendre une langue, ou au fait on commence à apprendre n'importe quoi, j'aime bien comparer aussi avec le violon, on a un degré d'anxiété plus élevé. Celui qui commence à jouer au violon se dit « Mon Dieu, ça sonne mal !» oh, ceux qui m'écoutent regardent avec horreur ou se bouchent les oreilles. Et cependant, puisqu'on a décidé qu'on veut apprendre à jouer au violon, on a quand même un certain plaisir que « Oh, ben voilà, deux notes que j'ai pu jouer et c'était pas faux !» Donc on a un certain plaisir, mais on a aussi une certaine anxiété. Et puis quand on progresse, ben voilà, on fait déjà moins de fausses notes. Les gens qui vous écoutent semblent moins horrifiés. Il y a de l'harmonie qui sort de votre instrument. Et donc en fait, peu à peu, votre enjoyment augmente et votre niveau d'anxiété diminue. Et puis je crois que dans la classe de langue, on se rend compte que on commence à être capable de parler de choses plus profondes, avec suffisamment de précision et de détails, et que donc, plutôt que de parler seulement de choses ultra simples et ultra superficielles, on peut commencer à projeter quelque chose de sa propre identité, comme votre ami congolais qui s'inventait des histoires. Ça devait lui faire un grand plaisir de pouvoir raconter des histoires inventées au reste de la classe, et peu importe s'il y avait des erreurs et tout ça. Donc,
oui, et je me disais dans son cas, et j'ai retrouvé ça aussi quand j'ai été coach de langue pour les réfugiés qui venaient, que les émotions, parfois c'est pour des gens qui ont vécu des choses vraiment terribles, pour apprendre une langue, ça peut être un blocage. Et donc le fait que je leur dise, vous savez, vous n'êtes pas obligé de me raconter la vérité, ça les débloquait un peu, parce que c'est vrai que les émotions, c'est très lié à ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on veut donner, montrer à l'autre, ou parce qu'on revit des choses, etc. Donc c'est vrai que c'est au cœur en fait de l'apprentissage.
Tout à fait.
Et dans vos recherches, vous avez aussi regardé un petit peu la différence dans cet état de flow par rapport à la culture des apprenants, s'ils venaient d'Europe, d'Asie. Il y a d'autres auteurs aussi qui ont regardé ça. Est-ce que vous pensez que il faut voir aussi la possibilité d'entrer dans ce flow par rapport à la culture d'où on vient? Ou c'est plutôt, donc c'est cette différence entre trait, ce que vous expliquiez tout à l'heure, et state. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que l'état de flow est assez universel, que tout le monde peut atteindre cet état-là dans le monde entier. Mais que peut-être que la base émotionnelle peut être légèrement différente suivant la culture. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment encore étudié ça en détail, mais Peter et moi, on a découvert, par exemple, que nos apprenants asiatiques avaient des niveaux d'anxiété supérieurs et des niveaux de enjoyment plus bas que les apprenants américains et européens, par exemple. Donc, c'est clair qu'il y a des différences culturelles et c'est quelque chose que j'aimerais creuser plus, parce que c'est clair que ce qui est considéré une émotion positive en Amérique, c'est typiquement quelque chose qui est centré sur l'individu et le succès de l'individu. Alors que dans un contexte chinois, par exemple, c'est moins le succès de l'individu que le succès du groupe et l'harmonie sociale qui est considérée comme cruciale. Donc, le enjoyment en Chine est plus sociale, je dirais, que dans un contexte occidental. Et puis, il y a des différences aussi dans les systèmes d'éducation, c'est-à-dire que en Chine, le rôle du prof, le prof est beaucoup plus central que dans le monde occidental, où il y a plus d'autonomie, en fait, plus de liberté pour les apprenants. Et maintenant, je suis en train de regarder aussi au Maroc, qui est aussi une culture plutôt collectiviste comme en Chine, et où d'autres émotions semblent être plus importantes, comme par exemple « peace of mind ». Donc, je suis en train de faire des études là-dessus, qui est une émotion positive, mais qui a un comment on dit, level of arousal plus bas que enjoyment. Donc, enjoyment, il y a un certain degré d'excitation, tandis que peace of mind, c'est en fait simplement le fait d'être heureux, tranquille, mais pas excité.
Plénitude, quelque chose de ce genre, oui.
On pourrait traduire par plénitude. Et donc, ce sentiment de peace of mind a un effet plus puissant en Chine et au Maroc que dans le monde occidental. Et puis donc, c'est aussi quelque chose que j'aimerais creuser parce que je me rends compte que on est fort influencé par la culture dans laquelle on vit, forcément. Et puis, tu es au Canada, moi je suis en Angleterre. Donc, on est très fort influencé par les émotions vues par une perspective occidentale. Et puis, on se rend compte, en fait, que dans d'autres parties du monde, ben, ça peut être très différent. Et que donc, il y a des choses que des apprenants apprécient fort dans le monde occidental qu'ils n'apprécient pas en dehors, comme par exemple la prévisibilité du prof. Alors, un prof imprévisible, c'est lié à plus de enjoyment dans le monde occidental. Et en fait, parmi des apprenants arabes ou chinois, ils préfèrent des profs qui sont prévisibles et qui se tiennent aux mêmes routines. Et puis ça m'a fort étonné parce que je m'étais en fait j'avais jamais pensé que ça aurait pu être le cas. Bon, en fait, j'aimerais aussi faire plus d'études pour essayer de comprendre pourquoi et s'il y a d'autres comportements du prof qui peuvent être liés aux émotions positives ou négatives, au flow, comme par exemple. Mais ce qui semble être assez universel, c'est que tous les apprenants apprécient des profs qui utilisent la langue cible fréquemment en classe. Et aussi les profs qui font des petits commentaires humoristiques ou des petites blagues.
Ah, l'humour.
L'humour, très important. Et puis, il y a probablement encore beaucoup d'autres comportements qu'on n'a pas encore étudié.
Bah, c'est super intéressant. Et puis, vous allez recevoir une autre invitation pour un nouvel épisode, du coup. Et là, on parlera de toutes ces choses sur l'influence de la culture, sur le rôle du prof et puis ce qui est apprécié chez les élèves. On arrive à la fin de notre enregistrement. Si vous deviez donner un mot de la fin à nos auditeurs, si vous deviez donner un conseil aux profs de langue qui nous écoutent, ce serait quoi?
Je crois que ce serait vraiment, je dois le dire en anglais, c'est « have fun ».
Amusez-vous.
Oui, amusez-vous. Parce que quand on est dans la salle de classe, si le prof s'amuse, en fait, tout le monde s'amusera. Et on peut s'amuser de façon très sérieuse. On peut faire des choses vraiment difficiles et s'amuser à le faire. Et puis, on peut faire quelque chose de tout à fait léger et ridicule et s'amuser aussi. Et donc, il faut un peu de variation, mais il faut s'amuser.
Ça me plaît ce conseil, c'est très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc.
Ben, Mary Poppins, c'était un plaisir.
À bientôt.
Merci, au revoir, Audrey.
Vous voulez participer au podcast? Regardez quel thème sera abordé sur le site etc-languagelearning.web.rug.nl, puis choisissez l'onglet du podcast « Je suis prof de FLE ». Vous pouvez y envoyer une question que je poserai à mon prochain invité. N'hésitez pas non plus à me proposer des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez apprendre plus. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou vos amis. Et ce qui aide vraiment à faire connaître le podcast, c'est de lui donner 5 étoiles. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!